C'est l'heure du journal avec vous, Tara Schlegel, bonsoir.
Bonsoir Julie, bonsoir à tous. Face à face entre l'armée turque et syrienne dans le nord de la Syrie, depuis l'annonce surprise du retrait des forces américaines de cette zone peuplée de Kurdes, la tension monte. Les miliciens kurdes craignent d'être écrasés par leurs voisins turcs. Ils ont appelé les soldats de Damas à l'aide. Nous serons dans la région avec Aurélien Colli dans un instant. Le fléau du racisme et de la violence dans le football italien. Après les cris de singe, les invectives qui ont émaillé le match Inter de Milan-Naples et la mort d'un supporter mercredi dernier, voilà que les politiques s'en mêlent, nous dira Xavier Sartre. En France, veillée d'armes pour les gilets jaunes qui ont déjà tenté d'occuper le fort de Brégançon et une raffinerie ce vendredi. Nous ferons le point avec Steven Goyer. Et puis nous serons en Israël où de nouvelles législatives se préparent avec peut-être un rival sérieux pour Benjamin Netanyahou. Mais d'abord, c'est une véritable légende de la littérature israélienne qui vient de s'éteindre. L'écrivain Amos Oz avait 79 ans, couronné par plusieurs grands prix littéraires. Il n'avait jamais obtenu le Nobel. Bonsoir Sarah Cozzolino.
Bonsoir.
Amos Oz restera aussi comme un écrivain politiquement très engagé.
Et pourtant, Amos Oz avait décidé d'être conducteur de tracteur dans un kibboutz à l'âge de 15 ans. Une rébellion contre le monde des livres qu'incarnait son père. D'ailleurs, c'est à cette époque-là qu'il décide de changer le nom qu'il a de son père, Klausner, pour adopter celui de Oz, force, courage en hébreu. Mais il finit par revenir vers la littérature et publie son premier roman en 1966. Il ne s'arrêtera jamais d'écrire et obtiendra de nombreux prix littéraires comme le prix Femina étranger en 1988 pour La boîte noire. Amos Oz se définit comme un lecteur insatiable, avouant qu'enfant, il aurait préféré être livre plutôt qu'un écrivain. Écoutez justement comment il parlait de l'effet d'un livre sur son lecteur à Christophe Onodibio. C'était en 2016 sur France Culture.
Je pense que lorsque nous lisons un bon livre, nous recevons parfois une paire d'yeux et une paire d'oreilles supplémentaires. Nous regardons la millième fois quelque chose que nous connaissons déjà. Et nous le voyons à ce moment-là pour la première fois. C'est ça le don, le cadeau de la littérature.
Amos Oz est aussi une figure politique. Il était notamment le cofondateur du mouvement La Paix Maintenant et partisan d'une solution à deux États pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Il a participé deux fois à des conflits armés, la guerre des Six Jours en 1967 et la guerre du Kippour en 1973. Mais il tenait à ce que l'on distingue son engagement politique de son œuvre littéraire.
Merci beaucoup Sarah. Et cet entretien dont nous venons d'entendre un extrait avec Christophe Onodibio est à réécouter dans son intégralité demain de 17h à 18h. La nature a horreur du vide. À l'annonce du départ imminent des troupes américaines basées en Syrie, les Kurdes qui occupent le nord du pays ont appelé les militaires syriens à la rescousse. L'objectif est de se protéger du voisin turc, lequel semble bien décidé à éliminer une fois pour toutes ces miliciens kurdes qui occupent donc cette zone du nord de la Syrie et que la Turquie assimile à des terroristes. Bonsoir Aurélien Colli.
Bonsoir Tara.
Vous êtes en direct de Beyrouth. Les Kurdes, je viens de le dire, ont appelé à l'aide l'armée de Bachar al-Assad, occasion rêvée pour le président syrien de reprendre pied dans cette région. Où en est précisément, Aurélien, le déploiement des troupes syriennes ?
Alors contrairement à ce que le régime syrien annonçait à la mi-journée, ces troupes n'auraient pas pénétré dans la ville de Manbij, le verrou de la région contrôlée par les Kurdes. Elles se seraient déployées au nord et à l'ouest de cette ville sur la ligne de démarcation qui sépare la cité aux mains des Kurdes des territoires contrôlés par les forces pro-turques. Avec ce mouvement, les troupes gouvernementales syriennes ont créé en fait une sorte de zone tampon qui complique désormais une offensive de la Turquie et de ses alliés. Un déploiement pour gagner du temps finalement pendant que des négociations se déroulent entre les Kurdes et le régime de Damas, sous les auspices de l'allié du protecteur du régime, la Russie. Moscou a d'ailleurs salué dès ce matin le déploiement de l'armée syrienne, le qualifiant de positif pour la stabilité de la région. Positif surtout pour Bachar al-Assad qui peut envisager enfin de remettre la main sur une partie de son territoire riche en pétrole et qu'il avait perdu il y a 6 ans.
On sait aussi que le président turc Erdogan rêve d'écraser les forces kurdes en territoire syrien. Quelle est sa réaction face à l'avancée des soldats de Damas, Aurélien ?
Furieux, tout simplement, car le président Erdogan, qui a massé depuis des semaines des forces à la frontière pour lancer son offensive contre les Kurdes, se voit un peu bloqué dans ses plans. Il a dit ce matin, son objectif principal, c'est d'infliger une leçon aux milices kurdes, tout en promettant, cela dit, que son pays n'aurait plus rien à faire ensuite en territoire syrien. Alors, après avoir été prise de court par l'annonce du retrait américain, prise de court par l'appel à la rescousse des Kurdes au régime de Damas, Ankara semble prise de court par le mouvement des troupes syriennes ces dernières heures, qui complique ses plans, preuve d'ailleurs de cette colère turque. Le ministre de la Défense a estimé que les milices kurdes n'avaient pas le droit de faire appel à Damas, qu'elles n'avaient aucune autorité sur cette région, quand bien même elles la tenaient par les armes. Dans la journée, des forces armées soutenues par Ankara, dont des éléments de l'armée syrienne libre, se seraient d'ailleurs mises en mouvement pour se rapprocher de Manbij et de la ligne de front avec l'armée syrienne.
Merci beaucoup Aurélien Colli en direct de Beyrouth, signe que la Syrie redevient fréquentable, du moins pour les voisins arabes. La réouverture hier de l'ambassade des Émirats Arabes Unis à Damas. Alors que le retrait soudain des 2000 militaires américains de Syrie sème le trouble, on vient de l'entendre. Donald Trump compte bien imposer sa marque dans la crise avec le Mexique. Le président américain menace à présent de fermer tout simplement la frontière avec son voisin s'il ne parvient pas à faire construire son fameux mur anti-immigration. Pour l'instant, le Congrès refuse de débloquer les 5 milliards de dollars nécessaires à cet ouvrage d'art. Comment gérer justement les flux migratoires? La question est devenue brûlante à l'échelle planétaire. En Europe, 311 Africains venus surtout de Somalie ont pu débarquer finalement dans la baie de Gibraltar. L'Espagne, décidément accueillante, a accepté de voir accoster le navire Open Arms. Le bateau venait de passer une semaine en mer. Plus de 130 enfants et adolescents mineurs se trouvaient à son bord. Et puis pour éviter un drame entre la France et la Grande-Bretagne, pays que des milliers de migrants rêvent toujours d'atteindre, l'idée de créer une patrouille de garde-côtes fait son chemin. Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, plaide pour une force conjointe franco-britannique qui sillonnerait désormais la Manche. En Allemagne, pays qui a accueilli presque 1 million de demandeurs d'asile en 2015, c'était au plus fort de la crise syrienne. Et encore 186 000 migrants demandeurs d'asile sur l'année 2017. La question du retour volontaire de certains de ces migrants se pose. Que faire en effet des déboutés du droit d'asile qui n'ont pas obtenu le statut de réfugiés, sinon les inciter à quitter le territoire? Or, le gouvernement allemand vient de lancer une sorte de campagne publicitaire en ce sens, ce qui choque certains Allemands. C'est un reportage de Ludovic Piétenu à Berlin.
Ton pays, ton avenir, maintenant. Le slogan peut prêter à confusion et laisser penser à une campagne d'accueil et d'intégration. L'Allemagne comme un pays d'avenir pour les réfugiés. Pour mieux comprendre, il faut visiter le site internet mentionné sur les 2400 affiches placardées dans le métro de Berlin et dans 80 autres villes du pays pour se rendre compte qu'il s'agit d'une campagne d'incitation des étrangers au retour volontaire. L'affiche a choqué Anna Hübner. Cette citoyenne berlinoise ne s'était jamais vraiment mobilisée pour quelque chose. Elle est à l'origine d'une pétition qui a réuni jusqu'à présent plus de 30 000 signataires.
Quand j'ai vu l'affiche pour la première fois dans le métro, ça m'a mis très en colère. Je me suis posé beaucoup de questions. Qui est visé? Quel est le sens de ce slogan? Et je me suis immédiatement sentie préoccupée sur ce que ça pouvait provoquer dans notre pays. J'ai tout de suite pensé que c'était très insultant pour des gens qui ont fui depuis des années et qui essayent de construire leur vie en Allemagne. Je me suis dit que ça devait les agacer et les préoccuper. J'ai aussi rapidement pensé que ça n'était pas bon dans ce moment où l'extrême droite prospère, où certaines personnes tiennent ouvertement et publiquement des propos contre l'immigration ou la diversité. Et j'ai pensé que cette campagne n'était pas bonne pour la démocratie, pas bonne pour vivre ensemble, unis dans un seul et même pays.
Ce message s'adresse à 60 000 personnes environ, ces étrangers dont la demande d'asile a été rejetée. Et si cette campagne d'affichage a choqué, c'est aussi parce qu'elle met en avant, comme dans des publicités commerciales, une promotion dont il faut profiter avant la fin de l'année. Jusqu'à 12 mois de frais supplémentaires offerts pour un logement dans votre pays d'origine, peut-on lire dans 7 langues différentes, dont le français. Étonnant, affligeant, s'est même dit Yann Le Retaille, ce franco-allemand à la tête d'une entreprise dans le secteur des nouvelles technologies, a lancé un mouvement de protestation baptisé Berlin Unite, Berlin Uni.
Et maintenant on a 85, presque 90 supporters d'autres entreprises, organisations. Donc on représente environ 10 à 15 000 salariés.
Un effet boule de neige, ose croire Yann Le Retail, qui peut faire peur au gouvernement. La réalité dans ce secteur des nouvelles technologies est qu'on retrouve la même proportion d'étrangers que dans la Silicon Valley américaine. 70% des salariés de la tech à Berlin viennent d'un autre pays pour apporter leurs qualifications très recherchées. Sur cette affiche, fait remarquer Yann Le Retail, on voit des drapeaux à l'infini et bon nombre de ses employés se sont sentis visés.
Ça parle à tout le monde, même à moi-même, comme franco-allemand, qui est venu de l'étranger. Tous les pays sont inclus. Mais même les pays là comme moi ici, comme la Russie, la Turquie, j'ai plusieurs salariés de ces pays. Et pour eux, bien sûr, c'était un choc. Une affiche comme ça, je veux dire, ça va pas, quoi. C'est assez horrible.
Ces protestations d'entrepreneurs, associées au mouvement citoyen, ont incité le très populiste ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, à les recevoir. Ils ont été écoutés, poliment, mais le gouvernement a refusé de retirer ou de modifier sa campagne d'affichage à 500 000 euros. Le sujet du retour volontaire ne va pas s'éteindre en 2019. C'est de là fonde l'espoir qu'en cas de nouvelle campagne, le gouvernement fédéral allemand fasse un peu plus attention à la formulation du message.
Ludovic Piétenu, les victimes du racisme ne sont pas toujours des étrangers sans ressources et sans papiers. En Italie, dans l'univers du ballon rond, le fléau du racisme et de la violence frappe même les stars. Des joueurs étrangers ont été ces dernières années la cible récurrente de cris de singe. Dernière victime en date, le défenseur sénégalais Koulibaly, conspué mercredi lors du match Inter de Milan-Naples. Match émaillé de violence avec même la mort d'un supporter. Sujet brûlant donc, le football en Italie qui est remonté jusqu'au premier ministre italien. Xavier Sartre nous appelle de Rome.
Sur le fond, l'ensemble du gouvernement italien est unanime pour condamner les affrontements entre supporters. Mais sur la réponse à donner un phénomène déjà affronté à plusieurs reprises par les autorités, pas facile de s'accorder. Le président du conseil, Giuseppe Conte, qui se défend de toute compétence en la matière, veut marquer lui les esprits.
Bisognerebbe dare un segnale di cesura forte rispetto.
Il faudrait donner un signal fort de césure par rapport à ces épisodes, en ayant recours dans ce cas à une pause des manifestations sportives, une pause qui permette à tous ceux qui prennent part et à nous tous une réflexion fructueuse.
À queste manifestazioni sportive per tutti noi.
Pas question cependant de priver les vrais tifosi des matchs, insiste le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini. Il critique ainsi également la décision du juge sportif qui a infligé 2 matchs à huis clos à l'Inter. Il faut au contraire que les rencontres les plus à risque se jouent à la lumière du jour et peu importe, selon lui, les pressions des télévisions et les intérêts économiques qui privilégient les matchs en soirée. Une mesure déjà prise, notamment pendant plusieurs années, pour les derbies entre les 2 clubs de la capitale. Rien de nouveau en somme, face à un problème récurrent en Italie.
Xavier Sartre à Rome. L'incendie qui s'est déclaré hier soir dans une tour HLM de Bobigny a fait une 4e victime, une femme de 25 ans. 3 autres personnes sont encore en réanimation. Les fumées toxiques seraient à l'origine de ces décès. Le feu a pris, pour une raison encore inconnue, au premier étage de l'immeuble. Un immeuble qui n'était pas vétuste, assure le maire de Bobigny. Vers l'acte 7 des Gilets jaunes, on s'attend quand même à une mobilisation beaucoup moins forte ce week-end en France. Bonsoir Steven Goyer.
Bonsoir Tara.
Mobilisation qui a quand même débuté dès aujourd'hui, dès vendredi.
Et oui, et même dès 8h ce matin, 100 de gilets jaunes se sont rassemblés autour de la raffinerie Total de Fézin, près de Lyon, sans toutefois bloquer les entrées. Plus au sud, 20 d'entre eux se sont rassemblés devant le fort de Brégançon, résidence d'été du président de la République. La veille, ils étaient 40 au même endroit. Derniers événements en date cet après-midi, c'est toujours dans le sud que l'on a pu apercevoir quelques manifestations sur le réseau autoroutier entre Toulon et Marseille ou encore du côté de Narbonne. Pour ce week-end, le fameux acte 7 est organisé autour du sous-titre « Paraît-il qu'on s'essouffle » avec une invitation à partager ses photos ou vidéos des rassemblements avec le hashtag « Le mouvement s'essouffle ». 5 points de rassemblement annoncés sur la page « La France en colère ». Lille, Lyon, dès 9h demain matin, Paris, même si le lieu reste pour l'instant tenu sous silence, Bordeaux ou encore Toulouse à partir de 14h. Alors, si côté gilet jaune on joue sur le hashtag ironique, il faut bien constater que le nombre de participants annoncés à ces rassemblements est loin d'être comparable à celui des précédents week-ends. À Bordeaux, l'acte 7, surprise pour Juppé, compte pour l'instant à peine 1600 participants. À Lyon et Toulouse, on compte entre 600 et 700 personnes motivées pour se rendre dans les rues. On ne parle là que des grandes villes, puisque d'autres rassemblements sont annoncés un peu partout en France. Mais le soufflet pourrait bien retomber, effet entre deux fêtes oblige. Par contre, l'acte 8 est déjà un petit peu plus plébiscité. Un peu moins de 8000 personnes annoncent leur participation à un réveillon gilet jaune. Ce sera lundi, soir de la Saint-Sylvestre, sur les Champs-Élysées.
Merci Steven. Et puis l'IGP. l'IGPN, l'inspection générale de la police, a ouvert 48 enquêtes sur de possibles infractions commises par des policiers depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Une information de BFM TV. À propos de violences policières, Alexandre Benalla se retrouve à nouveau à la une des médias en France. L'ex-protégé de l'Élysée, qui s'était rendu coupable d'actes violents alors qu'il portait indûment un brassard de la police, c'était en mai dernier, semble ne pas avoir rendu les deux passeports diplomatiques qui sont en sa possession. D'après Mediapart, l'un au moins de ces documents a été émis alors même que Benalla avait été déjà suspendu de ses fonctions. L'entourage du chef de l'État, Emmanuel Macron, paraît assez embarrassé de cette nouvelle affaire et les langues commencent à se délier dans la majorité comme l'opposition. Écoutez la députée macroniste Sandra Motin, suivie du député de l'opposition UDI, Jean-Christophe Lagarde.
Là, il y a clairement une faute. Il n'est pas normal que deux passeports diplomatiques qui sont censés, d'après une personne qui le déclare sous serment, être dans les locaux de l'Élysée, ne soient pas trouvables. Cette histoire n'est pas restée, on va dire, sans action, puisqu'il y a bien un courrier recommandé qui a été envoyé à M. Benalla pour qu'il restitue ses passeports. Pour autant, je pense qu'une action un peu plus forte aurait été nécessaire. En tout cas, maintenant, elle est clairement posée. Il faut récupérer ses passeports et il faut renforcer, je pense, également la procédure.
Il est un passeport diplomatique, encore aujourd'hui, dépasse l'entendement. Ça pose la question, est-ce que l'État est dirigé ou est-ce qu'il est complaisant? Parce que 6 mois après, un passeport diplomatique, ça s'annule, ou en tout cas, on le récupère. Quand le Quai d'Orsay nous dit qu'il a demandé à le récupérer, mais enfin, c'est de l'usurpation de fonction. Pourquoi une plainte n'a pas été déposée? Ça suffit. Cet homme finit par déstabiliser un système politique qui n'a pas besoin de ça.
Voilà donc ces deux députés, Sandra Motin et Jean-Christophe Lagarde, invités de nos confrères de Radio France. Et puis le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, annonce ce soir qu'il va saisir le procureur de la République après les révélations de la presse dans cette affaire. Alexandre Benbala, quant à lui, affirme ce soir, selon son entourage, nous dit l'AFP, que ses passeports diplomatiques lui ont été restitués début octobre. Preuve qu'une enquête ne sera pas de trop pour démêler tout cela. Retour en Israël, qui pleure, on l'a dit en ouverture de ce journal, la mort de son grand écrivain Amos Oz, mais qui n'en oublie pas pour autant les joutes politiques toujours très animées. Faute de majorité claire, la coalition du gouvernement le plus à droite d'Israël a dissous cette semaine la Knesset, le Parlement, provoquant ainsi des élections anticipées. Elles sont fixées au 9 avril prochain. Dans l'État hébreu, la campagne électorale a déjà commencé et voit apparaître une nouvelle figure qui pourrait créer la surprise, Benny Gantz, ex-chef d'état-major, qui fait une percée dans les sondages. Il a créé sa formation politique ce jeudi et il est déjà considéré comme un sérieux rival pour Benjamin Netanyahou. À Ramallah, les précisions de Marine Vlaovic.
Il n'a pas encore officiellement annoncé sa candidature, mais pour les observateurs, cela ne fait aucun doute. En déposant cette semaine les statuts de son parti Résilience pour Israël, Benny Gantz a mis un pied dans la course aux élections. Décrit ces derniers mois comme l'homme providentiel de l'opposition, l'ancien chef d'état-major de 59 ans, qui a été aux commandes des guerres de Gaza de 2012 et 2014, prépare depuis 3 ans son entrée en politique en toute discrétion. Avare en commentaire, il jouit cependant d'une grande popularité dans l'État hébreu, un outsider centriste à l'idéologie vague et au programme encore inconnu. Tout juste a-t-il déclaré ces derniers mois que la priorité numéro 1 est de trouver une solution au conflit israélo-palestinien, à l'opposé donc du gouvernement actuel qui a fait en sorte que la question iranienne éclipse ce dossier pourtant brûlant. Selon les premiers sondages, le tout jeune parti de Benny Gantz remporterait de 13 à 20 sièges à la Knesset, étalonnerait ainsi le Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou. Le général pourrait donc devenir un élément incontournable de cette campagne et un sérieux rival pour un Benjamin Netanyahou, cerné par les affaires et sous la menace d'une mise en examen pour corruption.
Marine Vlaovic, correspondante de RFI à Ramallah. Sortira-t-il jamais de prison? Une lueur d'espoir pour Mumia Abu-Jamal, journaliste afro-américain condamné en 1982 qui a échappé au couloir de la mort en 2011 mais qui reste toujours derrière les barreaux aux États-Unis. Or, un juge à Philadelphie vient d'ouvrir la voie vers un nouveau procès. Comme le détaille Claude Guillaumeau-Pujol, elle est l'auteur de « Révélations sur l'affaire Mumia Jamal », le témoignage de Veronica Jones.
suite à la décision du juge Tucker, qui vient juste d'accorder à Mumia un nouveau procès. C'est-à-dire qu'il reconnaît que les droits constitutionnels de Mumia ont été bafoués, conformément à la décision de la Cour suprême, le William versus Pennsylvania case, qui dit que tout condamné jugé en première instance en appel par le même juge a droit à un nouveau procès ou même voir la suspension des charges contre lui.
Le procureur peut encore faire appel de cette décision.
Exactement.
Du juge.
C'est une première victoire. Maintenant, bien sûr, il faut attendre la décision du procureur Krasner. Krasner, c'est le premier procureur de Philadelphie élu sans le soutien du syndicat de police, l'UFOP. C'est un procureur très progressiste. Il a ouvert la porte, si vous voulez, disant qu'il reconnaissait qu'il y avait une faute dans le procès de Mumia, pour parler en mots clairs et simples.
Et donc, maintenant, il accordera un nouveau procès.
Un nouveau procès. Éventuellement, il laissera tomber les charges. Ça avait déjà été le cas quand il y a eu sa peine commuée de la peine de mort en prison à vie en 2012. Déjà, le procureur aurait pu lui accorder un nouveau procès que de le condamner à vie. Là, 6 ans après, on a une nouvelle situation où il y a un choix multiple encore.
Vous avez des nouvelles de Mumia Abu Jamal?
On n'en a pas directement parce qu'on a le problème qu'on peut plus communiquer pratiquement avec lui par courrier puisque depuis le mois d'août, les prisonniers en Pennsylvanie ne reçoivent plus leur courrier. Il est envoyé à une société privée en Floride qui leur envoie des photocopies éventuellement. Physiquement, il va pas mal et il continue à écrire et publier. C'est comme ça qu'il survit d'ailleurs.
Des propos recueillis par Nadine Epstein. Un tout petit mot de la météo qui sera essentiellement grise demain sur l'ensemble du pays. Les grisailles qui vont se morceler toutefois sur la région Rhône-Alpes et l'Auvergne ainsi que le sud-ouest. Il fera beau en Méditerranée et froid demain de -4 à 0 degrés.